Voici Jean-Luc Mongrain.
On est souvent habitué de parler de Moisson Montréal dans des périodes de pointe où il y a une demande et où la charité est comme aiguisée dans le partage, le temps des fêtes, par exemple. Mais Moisson Montréal est toujours ouvert et est toujours objet de demandes de gens qui ont faim et qui n'ont pas tous les moyens de se nourrir. Richard Danneau est avec nous, il est directeur général de Moisson Montréal. Et là, depuis cette pandémie-là, je pense que la demande est en hausse, n'est-ce pas, M. Danneau?
Oui, effectivement, au mois de juin dernier, le mois de juin qui vient de se terminer, on a donné 40% plus de kilogrammes de nourriture qu'on avait donné au mois de juin 2019. Là, c'est 400-500 000 kilogrammes de plus de nourriture qu'on a donné. En fait, depuis le début, M. Mongrain, depuis le début de la pandémie, depuis trois mois, on aura donné 8 millions de dollars de nourriture de plus de ce qu'on avait donné en 2019. On a donné en trois mois seulement 29 millions de dollars de nourriture. Imaginez le nombre de sacs d'épicerie que ça représente.
C'est incroyable.
Imaginez le nombre de bouches ont été nourris grâce à ça. Puis imaginez-vous l'impact social que ça a sur tous les Montréalais et les Québécois, parce que vous vous doutez bien là, que le monde ne se laissera pas mourir de faim. Là.
Absolument pas.
Collectivement, il y a un intérêt là, à nous, on est dans la réduction du gaspillage. En plus, cette nourriture-là serait perdue si on ne la captait pas, probablement. Il y a un intérêt à se mobiliser comme société et à essayer d'aider ceux qui sont précarisés, ceux qui ont moins de chance que nous autres. Puis ceux qui, aujourd'hui, ont besoin d'un coup de main. C'est un petit peu ça qu'on fait.
C'est ça. Puis c'est pas le moment de commencer à dire « Pensez-vous qu'ils en ont vraiment besoin ou ça? » On répond à la demande parce qu'elle est là. Il n'y a pas de profiteur là-dedans. Là.
Bien, vous savez, moi, je dis toujours, je pense pas qu'il y ait personne qui se lève le matin avec... C'est pas un projet de vie que d'aller au comptoir alimentaire. Là.
Exact.
De se mettre en ligne sur le bord du trottoir là, pour attendre d'avoir ta boîte d'épicerie. Là. Je pense que les gens, s'ils peuvent s'éviter ça... Ils sont heureux de se l'éviter.
Oh, ils sont contents de ne pas y aller. T'es très content de pas y aller.
Moi, en tout cas, je suis bien content de ne pas y aller. Je me trouve très privilégié de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour manger trois fois par jour,
comment,
pour nourrir ma famille.
Comment on réussit à répondre à une telle augmentation de la demande? Vos fournisseurs sont les mêmes? Il n'y a pas eu de plus de fournisseurs? Est-ce que vous les sollicitez davantage? Vous partagez cette problématique-là avec eux? Comment ça marche?
J'aimerais ça vous dire que c'est parce qu'on est bon, mais c'est pas juste la vérité. Il y a un petit bout en face, plus sérieusement. Là.
Mm-hmm.
Le milieu de l'hôtellerie et le milieu de la restauration ne fonctionne pas à pleine vitesse.
Non, c'est ça.
Il y a plein de nourriture qui est disponible. C'est cette nourriture additionnelle-là qui nous a permis d'augmenter notre offre de 40% par rapport à l'année passée.
Alors, c'est les grossistes, c'est les grossistes qui sont vos fournisseurs?
C'est les grossistes, c'est les transformateurs. Beaucoup de monde qui font de la transformation. C'est ceux qui préparent la nourriture dans des formats adéquats. Là, vous vous doutez bien qu'une cuisine d'hôtel, ça ne prend pas les mêmes coupes de viande qu'une épicerie.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est tout le monde du bio ou agroalimentaire, là, dépendant comment on les appelle, là, qui produisent la nourriture ou qui transforment la nourriture. Puis ceux qui la distribuent comme de raison, qui sont nos grands fournisseurs. Et on a aussi les épiceries. On a un programme de récupération dans les épiceries depuis 2013. Là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Fait que c'est le grand monde. Puis la raison, à votre question, la raison pour laquelle il y a tant de nourriture que ça, c'est parce que l'hôtellerie et la restauration
font fermé.
Pas de capacité.
C'est ça.
Exactement. Tu sais, genre, ça vivote, là, tranquillement, pas vite, ça reprend, puis on a tous hâte que ça reprenne.
Mais M. Danneau, au début de la pandémie, là, il disait, bon, ben justement, là, le marché de l'hôtellerie, le marché de la restauration est plus fermé. Et on voyait des œufs qui vont être jetés, du poulet abattu sans qu'il y ait de destination à une consommation. Vous deviez vous arracher les cheveux.
Ben oui, puis on vient triste quand on voit ça parce que c'est bête comme société qu'on utilise les ressources de la terre pour produire de la nourriture puis qu'on mette ça aux poubelles. Il y a de quoi d'incohérent, là. Il y a de quoi de sans dessin là-dedans, comme disait mon père. Fait que la nourriture, par exemple, le lait, c'est un bel exemple. Le lait, souvent, quand il est produit, il a besoin d'être transformé avant d'être vendu. Il peut être transformé en lait 2%,
ouais, oui.
En fromage, en toutes sortes de choses. Puis là, souvent, les producteurs disaient, bon, ben là, nous, on trouve pas le moyen d'écouler nos bebelles.
Jette ça dans le fossé.
Ouais, plutôt que de payer un transformateur. Puis là, c'est des marchés qui sont régulés, réglementés. C'est pas si simple que ça ne le paraît. Mais Mais, le côté positif, c'est qu'on a quand même réussi, nous, à Montréal, d'en ramasser 40% de plus. Puis mes collègues des autres moissons à Montréal, là, la vaste majorité, au Québec plutôt, la plupart de mes collègues, les directeurs généraux de moissons au Québec, eux autres aussi, ont réussi à mettre la main sur bien plus de...
Bien, monsieur Dano, votre intervention fait en sorte que va sensibiliser encore davantage le milieu des commerces du secteur alimentaire pour qu'ils pensent à destiner leur surplus ou ce qu'ils... pour répondre à vos besoins, évidemment.
Ben, c'est, puis votre intervention nous permet ça, puis je vous en remercie chaleureusement, parce que pour ceux qui ont faim, ça fait une énorme différence, M. Montréal.
Richard Dano, merci beaucoup, directeur général de Moisson Montréal. Et à tout le monde, pensez-y, pensez donc faire un petit détour. Peut-être que vous allez dire que votre canne ne servira à rien, mais elle peut servir à quelque chose, bien sûr. Marie-Claude Lavallée, animatrice de Québec Maintenant.
Ah, bravo!
Je l'ai eu!
Je savais qu'on y arriverait.
Ah oui, oui, oui.
Oui, 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 à compter de 15 heures pour certaines régions, 17 heures pour d'autres. Enfin, bref, on est là cet après-midi. On va bien sûr revenir avec un grand sage de l'économie, Clément Gignac, sur le portrait, ce que les Anglais appellent le snapshot, un instantané, on pourrait dire, de l'économie canadienne avec... avec les milliards et les milliards et les milliards. Oui, on le voit un peu partout. Et puis, on va évidemment se pencher sur ces nouvelles règles pour les policiers de Montréal. Comment ça va s'appliquer? Comment ils prennent ça?
Quel est l'accueil de cette modification?
Voilà. Et puis, dans des cas d'urgence, est-ce qu'il va vraiment falloir qu'ils prennent un recul et qu'ils réfléchissent avant d'agir? En tout cas, bref, il y a des questions à poser.
Intéressant, ouais.
Et puis, un avion qui va quitter Shanghai dans 10 jours, direction Vancouver, puis éventuellement, il y a des gens qui viendront vers Montréal, rempli de 150 à 200 animaux, petits chiens, petits chats, des gens qui reviennent soit ici pour vivre après avoir vécu à Shanghai, ou des gens qui ont dû déménager ici puis qui veulent leur petit animal. Alors, oui, avec toutes les règles ça coûte 500 000 $ US.
C'est pas pour du commerce d'animaux. Là.
Pas du... jamais dans 100 ans. Seigneur, j'aurais pas ce ton-là.
Merci beaucoup, vous écoute.
Merci
bien. Au retour de la pause, on va parler de Nima Machouf, épidémiologiste, qui nous parle de ses cas asymptomatiques.